Si, alors je vais faire avancer le truc. Voilà. C'est vrai qu'il y a un projecteur en plein dans la figure, c'est assez
Moi, je subis ça depuis le
déstabilisant.
début. Hein.
Donc oui, vous m'avez cité au niveau de mon nom et de mon organisme, mais je suis ici surtout en tant que représentant, porte-parole d'un projet multipartenaire qui regroupe de nombreux organismes dont vous voyez tous les logos en bas de la diapo. Et donc le propos d'aujourd'hui va être de vous faire une première restitution des résultats que nous avons acquis dans un projet de recherche financé par le CASDAR autour de l'évaluation des pertes d'azote par volatilisation ammoniacale suite à l'épandage de fertilisants azotés, donc à la fois organiques et minéraux. Donc c'est une première synthèse, c'est-à-dire qu'il y a toujours des travaux à faire, bien entendu, mais on arrive à, on va dire, un premier paquet, un premier livrable de choses très intéressantes à communiquer à la communauté technique et scientifique. Alors, deux ou trois mots de contexte, assez rapide, mais pour que tout le monde ait bien en tête les différents tenants et aboutissants du dossier. Au niveau de la volatilisation ammoniacale, si on s'intéresse aux aspects technico-économiques de la conduite des cultures, c'est une des premières causes de perte d'efficacité de l'azote apporté soit par les produits résiduaires organiques, PRO en termes d'abréviation dans mon topo, soit par les engrais minéraux. Force est de constater que l'évolution des charges économiques au niveau de l'achat des engrais ou sur la valorisation des intrants nécessite une maximisation de l'efficacité des apports et bien entendu du coup une diminution au minimum des pertes par volatilisation. Ensuite, on a un deuxième volet de contextuel, bien entendu, le contexte environnemental et réglementaire. Donc l'ammoniac est un polluant atmosphérique, hein, réglementé à ce titre-là. L'agriculture est quand même le secteur français qui contribue le plus aux émissions, parce qu'on est quand même à 98% des émissions, donc c'est quand même pas mal, avec une répartition inégale, bien entendu, entre les produits organiques et les engrais minéraux. Et tout ça est réglementé. On en arrive à la conclusion que étudier l'impact des pratiques culturales sur la volatilisation est un préalable indispensable pour améliorer les choses, à la fois d'un point de vue économique et environnemental. Si on veut étudier et acquérir des données de référence sur l'impact des pratiques culturales sur les émissions, ben, faut avoir une technique pour le faire. Parce que le credo un petit peu du projet, c'est qui dit référence dit large réseau expérimental pour les acquérir dans de nombreux contextes pédoclimatiques français. Et là, on arrive à la question de la méthode. Et au début des réflexions, il y a quelques années, on se retrouvait avec un petit problème, à savoir que les méthodes de mesure des émissions d'azote ammoniacal au champ avaient toutes des petites limites. Donc soit parce qu'elles ne pouvaient pas différencier un certain nombre de pertes, c'est-à-dire ne pouvaient pas isoler l'ammoniac d'autres pertes d'azote, c'est le cas du marquage quinzaine, soit parce que elles utilisaient des enceintes de mesure qui n'étaient pas adaptées à des suivis longue durée, qui pouvaient perturber le couvert, etc. Soit elles étaient adaptées à à de larges échelles d'études, comme des grandes parcelles à l'échelle de l'hectare, c'est le cas des méthodes micrométéorologiques, soit des méthodes qui ont été largement utilisées dans la littérature scientifique, des tunnels de ventilation, mais qui affichaient un coût financier important et des contraintes logistiques aussi, parce qu'il fallait amener l'électricité dans les champs quand même. Malgré le fait que de nombreuses études, y compris françaises, avaient étudié ces techniques et donné déjà de nombreux résultats intéressants, l'ensemble des organismes du projet s'est dit il faudrait peut-être voir si on arrive à définir une technique quand même intéressante et qui permette de se déployer sur des larges réseaux expérimentaux. Alors c'est ce qu'on a fait, et cette méthode qu'on a essayé de mettre au point, on l'a appliquée sur un réseau expérimental pour commencer à acquérir des données sur certaines pratiques culturales. Donc les essais qu'on a mis en place servaient à la fois de calage méthodologique, mais aussi de première réponse à certaines questions agronomiques qu'on se posait ou qu'on avait envie de confirmer. Donc le suivi au champ que l'on a effectué repose sur trois principes. Le premier, c'est que la technique, la base de la technique, c'est l'utilisation de petites pièges à ammoniac avec des filtres imbibés d'acide qui captent l'ammoniac quand il est mis à partir du sol. Donc ces petits pièges qui ressemblent à des petites capsules de machines à café très célèbres sont installés la tête à l'envers hein, sur des petits piquets que vous voyez là. Ce sont ces petits piquets là, donc sur les assiettes là, et à différentes hauteurs pour pouvoir capter des émissions à différentes hauteurs au-dessus de la surface d'émission, donc le sol ou le couvert. Ces pièges ammoniaques sont aussi disposés sur des mâts de bruit de fond autour des essais pour capter la concentration ambiante de l'atmosphère. Et donc, ces suivis d'émissions d'ammoniac sont effectués à des pas de temps réguliers pendant l'expérimentation. Concrètement, les expérimentateurs posent des pièges et les relèvent à des pas de temps réguliers. Et ça veut dire que ce qui sort spécifiquement de l'expérimentation, c'est ce qui est représenté par le petit tableau là, et ben, ce sont des quantités d'ammoniac piégées dans nos petites capsules, sachant que ces quantités d'ammoniac sont bien entendu issues d'un travail d'extraction au laboratoire. Le laboratoire ayant participé au projet en tant que prestataire d'analyse, dans le cas présent, c'était le LDAR. Donc cette technique-là, cette technique du piège existe depuis quelques années quand même, hein, initiée par des collègues écossais, mais n'a jamais été appliquée à ce que nous, on a voulu en faire vraiment. Alors ensuite, une fois que l'on a ces quantités d'ammoniac dans nos pièges, on en déduit des concentrations d'ammoniac dans l'air. Et grâce à des données météo et un certain nombre de modèles de calcul de flux, donc plusieurs modèles ont été testés dans le projet, bien entendu, on obtient des kilos d'azote émis par hectare. Donc c'est la donnée qu'on a envie d'obtenir à la fin. Dont je vais vous présenter les résultats. Donc, la méthodologie d'interprétation des données a été initiée et calée sur des grandes unités expérimentales par l'INRA-EGC. Et les tests sur des plus petites unités a commencé initialement par une collaboration entre cette équipe-là et l'UNIFA. Et donc, on a largement étendu ces choses lors du projet, sachant que le défi était bien entendu de passer à l'utilisation de cette technique sur une grande échelle, à savoir l'échelle de l'hectare où elle a été validée, à des unités expérimentales beaucoup plus petites, sachant que nos essais étaient à des parcelles élémentaires de 20 mètres sur 20 en moyenne. Voilà. D'un point de vue fondamental, comment est-ce que l'on obtient nos flux, nos kilos d'azote par hectare ? On utilise ce que je vous disais, un modèle. Vous avez dans cette diapo-là le modèle que l'on a retenu pour l'instant pour cette première communication, sachant qu'on en a plusieurs sous le capot et qu'on en proposera sans doute plusieurs à terme. Donc, en résumé, le flux, c'est-à-dire les kilos d'azote par hectare que l'on a calculé, c'est le résultat d'un modèle qui prend en compte la différence de concentration entre les différentes hauteurs de mesure. Donc c'est ce qu'on appelle le gradient, c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode des gradients. Ça prend en compte la variation de hauteur en elle-même, et ça prend en compte des paramètres climatiques. Dans le modèle actuel, on utilise le vent, la température, le rayonnement global, qui sont tous des paramètres qui influencent la thermodynamique, on va dire, de turbulence de l'atmosphère au-dessus de la surface d'émission. Et donc, ce que l'on obtient, c'est le flux d'azote ammoniacal en kilos d'azote par hectare et par heure. C'est-à-dire que pour chaque heure de suivi de l'essai, on a des kilos d'azote qui sont émis ou qui ne sont pas émis. Et concrètement, quand vous voyez le petit graphique là, eh ben, c'est la première sortie d'un essai, à savoir les différences de concentration en fonction des hauteurs et en fonction du temps. Je vais y revenir. Alors, le réseau expérimental que l'on a développé avec tout ça, 16 essais en tout, sur deux printemps, au printemps 2011 et au printemps 2012, avec à chaque fois des essais en engrais minéral et des essais en produits organiques. Je ne vais pas détailler la carte parce que je vais redécouper ensuite essai par type d'essai. Bon, c'est quand même un réseau assez important parce que 16 essais de cette ampleur-là pour une nouvelle méthode en 2 ans, donc on a mis un sacré effort expérimental. Voilà. Donc, en 2012, vous regarderez plus en détail dans les documents qui vous seront transmis. On a à peu près le même type de réseau qui s'étend sur plusieurs régions françaises. Voilà. Alors, avant de parler des conclusions agronomiques qu'on peut commencer à tirer, un petit mot sur les enseignements méthodologiques du suivi au champ. Le défi, je vous rappelle, c'était de passer sur une méthode qui a été validée à l'échelle de l'hectare, voir si elle était pertinente à l'échelle de quelques centaines de mètres carrés. Alors, première chose, c'est qu'on est très content de la répétabilité des mesures élémentaires. C'est-à-dire qu'on a une faible variabilité intra-bloc, etc. À savoir que quand on mesure une concentration d'ammoniac dans l'air par cette méthode-là, eh ben, la mesure est, on va dire, statistiquement fiable. La deuxième chose dont on est content, c'est que nos capteurs sont assez sensibles pour discriminer à la fois des concentrations d'ammoniac dans l'air d'ampleur importante ou d'ampleur moins importante. Je vous explique. Vous voyez le graphique de gauche, là. C'est un essai où on a étudié l'apport de lisier de porc selon différentes techniques d'application, et notamment je l'enfouis ou je l'enfouis pas. Quand vous voyez ce petit cadran-là, vous voyez le point rouge en haut, on est à 800 microgrammes d'ammoniac dans l'air en termes de concentration. Le petit point bleu que vous voyez en dessous, on est à 200. C'est la différence entre deux modalités d'essai. Donc la technique permet de discriminer des gros flux, on va dire. Donc on s'y attendait un petit peu quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le graphique de droite, où c'est un essai qui compare de l'ammonitrate et de la solution azotée. Et ce que vous voyez là, c'est que quand on regarde la solution azotée là, on est à des niveaux de concentration d'ammoniac beaucoup plus faibles, savoir vous êtes à 100 ou 120 microgrammes d'ammoniac dans l'air, mais on arrive quand même à faire la différence entre des concentrations à 60 et des concentrations à 120. Donc ce qui montre la sensibilité de nos capteurs qui permettent d'étudier des phénomènes agronomiques d'ampleur tout à fait différente, et ça c'est quand même très intéressant. Enfin, au niveau de nos unités expérimentales, vous le verrez plus tard dans les histogrammes que je vais vous montrer, eh ben, quand on mettait en place des témoins où on n'apportait aucun engrais minéral ou aucun produit organique, quelles que soient les modalités qui étaient à côté, on contaminait très peu ce témoin-là en termes de retombées, ce qui nous incite à dire que notre unité expérimentale n'est pas trop petite et on peut gérer des problèmes de frontières éventuelles entre nos modalités. Voilà. Alors, allons-y maintenant au niveau des résultats, que je vais balayer assez rapidement. Je les ai découpés en plusieurs points. Premièrement, tout un jeu de données sur les apports de lisier et de fumier de bovins en comparant j'enfouis ou j'enfouis pas juste après l'épandage. Les petits graphiques que je vous montre, là, ce sont les flux cumulés. C'est-à-dire vous avez pour les trois modalités les quantités d'azote ammoniacal perdu en kilos d'azote sur toute la durée de l'essai. Donc sur cet essai-là, par exemple, on constate que le témoin où on n'a rien apporté est à zéro, le lisier en surface est à 11 kg et le lisier enfoui est presque à zéro aussi. Donc vous avez à peu près les mêmes conclusions pour les quatre essais où on remarque une très forte efficacité de l'enfouissement sur les émissions. Pour ceux qui ont de bons yeux, on a aussi chiffré ces aspects-là en termes de quantité d'azote ammoniacal perdu relativement aux quantités apportées. Donc c'est des pourcentages émis où on a des niveaux d'émission qui vont de 29 à 75% de l'azote ammoniacal épandu quand même quand vous l'apportez en surface, et on descend à très très bas bien entendu quand vous l'enfouissez. Si on regarde les essais en lisier de porc, même protocole, j'apporte en surface ou j'apporte en surface et j'enfouis juste après, on se retrouve avec une très grande efficacité, bien entendu, de l'enfouissement. Vous voyez sur les deux essais là, aux extrémités. L'essai du milieu est un peu particulier, et ça rejoint un petit peu le débat du topo précédent, à savoir que sur cet essai-là, on n'a pas testé enfoui, non enfoui, on a testé le lisier de porc et son digestat. Alors, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit assez classiquement que pour le lisier en surface, le lisier de porc en surface, on oscille sur des émissions qui vont de 56 à 70%. Et si on regarde spécifiquement pour lisier de porc et digestat lisier de porc, on est à des niveaux d'émissions ramenés aux quantités d'azote ammoniacal apportées, un petit peu plus élevés pour le digestat. On est à 15% par rapport au lisier d'origine qui est à 7%. Alors, ces résultats-là, on est allé voir si ça correspondait un petit peu à ce qu'on savait en termes de biblio. Bah, heureusement, oui. J'ai pris qu'un seul exemple, qui est une synthèse biblio de Sommer et ses collègues, qui il y a déjà quelques années, mais c'est intéressant. Sur ce petit graphique-là, vous voyez en ordonnée, c'est des pourcentages de réduction d'émissions par rapport à une modalité témoin, qui est un sol non travaillé, évidemment le lisier non enfoui, où on s'aperçoit que notre modalité lisier enfoui, qui est là, affiche des niveaux d'émissions à peu près 20% du témoin, ce qui est même plus fort que nous, ce que l'on mesure. Donc on est totalement en cohérence avec la biblio, à savoir une forte influence de l'enfouissement sur les émissions. Ensuite, bien entendu, ce qui va être intéressant à faire et le travail en cours, c'est de voir comment en dynamique tout ça, ça se passe. Je vous ai mis trois cinétiques d'émissions de lisier de porc en surface dans nos essais. Les trois essais sont en Bretagne d'ailleurs, où on remarque la dynamique très forte et immédiate d'émissions des lisiers de porc, ce qu'on retrouve parfaitement aussi dans la biblio, à savoir que quand vous apportez un effluent liquide, vous avez des émissions qui sont très rapides dans les heures qui suivent l'épandage, et puis après, la messe est dite. Donc tout ça, on va continuer à le travailler, mais tout ça, c'est très très encourageant. Pour les engrais minéraux, on a fait trois types d'essais. D'abord, des comparaisons ammonitrate solution azotée sur céréales, donc, dont vous voyez quelques exemples là. Retenez deux choses, c'est que la solution azotée émet plus que l'ammonitrate, c'est pas un scoop, vous voulez me dire, 16%, 15%, 17% et 10% de l'azote ammoniaque a dépendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mesurer dans certains cas de situations très à risque aussi des émissions non négligeables de l'ammonitrate. En règle générale, l'ammonitrate a très peu émis, mais on a un cas où il a émis. Bon, c'est un sol de craie, printemps 2011, pas un gramme de flotte avec de la chaleur. Donc on était dans des situations très extrêmes d'un point de vue conditions d'émission. On a regardé aussi des comparaisons ammonitrate urée sur céréales, où là, on a pu mettre en évidence que dans certains cas, on avait des émissions d'urée supérieures à l'ammonitrate aussi, qui rejoint ce à quoi on s'attendait. Notre réseau, sur 2 ans, n'a pas permis de faire le triptyque ammonitrate, solution azotée, urée. Donc pour l'instant, on ne peut que conclure en disant que l'ammonitrate émet moins et l'urée, la solution azotée, émet plus que lui, sans pouvoir distinguer ces deux formes-là de façon très claire. Troisième type de résultat, nous avons comparé ammonitrate urée sur colza, où là, on va quand même avoir du mal à interpréter un certain nombre de choses, parce que les niveaux d'émission étaient quand même assez faibles. Néanmoins, sur un essai, on a eu l'ammonitrate et l'urée qui avaient des niveaux d'émission qui étaient très proches, même avec l'ammonitrate un petit peu plus élevé, et un deuxième essai où c'est au même niveau, mais avec des niveaux d'émission très faibles. Toujours dans l'optique de voir dans le rétroviseur si on retombe sur nos pieds d'un point de vue biblio, on a rapproché nos résultats avec d'autres travaux, et notamment on a valorisé un travail qui était très intéressant et assez récent, réalisé en Angleterre, sur des comparaisons ammonitrate solution azotée urée. C'est ce que j'ai repris dans ces deux graphiques-là. Vous avez en abscisse les quantités d'azote volatilisé de l'ammonitrate en pourcentage de l'azote apporté, et en ordonnée, soit la même chose pour la solution azotée, soit pour l'urée. Les carrés jaunes, c'est la biblio, et puis les points de couleur, ce sont nos résultats. Bon, on remarque que pour la solution azotée, on est dans le nuage. Bon, il y a ce point-là qui est un petit peu bizarre, mais on est dans le nuage. Pour l'urée, on est aussi dans le nuage, mais aux deux extrémités du nuage. Savoir qu'on a des situations où l'urée émet un petit peu plus, mais pas tant que ça, que l'ammonitrate, et une situation où l'urée émet beaucoup plus que l'ammonitrate, qui correspond à l'extrémité du nuage des Anglais. Donc encore là une cohérence, mais bien entendu, il va falloir qu'on acquiert un certain nombre d'autres données pour avoir un petit peu plus d'exploration du ventre mou du nuage de l'urée, ou un petit peu plus aux extrémités de la solution. De la même façon, on va passer par une étude dynamique pour déterminer comment tout ça se volatilise dans le temps, sachant qu'on n'est pas du tout sur la même dynamique que pour les lisiers, bien entendu, on est beaucoup plus progressif, et notamment, dans un certain nombre de cas, on suit la dynamique d'hydrolyse de l'urée en termes d'émissions. En conclusion, Alors, bon, on est content quand même, parce que la méthodologie sur laquelle on avait parié d'un point de vue méthode est quand même assez intéressante. Je ne reviens pas sur la sensibilité, la bonne répétabilité et les unités expérimentales qui sont quand même de taille raisonnable pour pouvoir être gérées par tout le monde. L'utilisation des pièges à ammoniac est aussi d'une utilisation assez facile à partir du moment où vous avez expliqué, donc pas besoin de haute technologie. Et la dernière étape, c'est d'avoir les modèles d'interprétation de flux. Eh ben, je vous ai présenté un modèle, on en a d'autres, je veux dire, en cours de gestation. Pour l'instant, ils sont tous convergents, et donc on est quand même confiant sur le fait qu'on ne raconte pas de bêtises. Deuxième chose qui nous fait dire qu'on ne raconte pas de bêtises, c'est que nos résultats sont cohérents avec les connaissances antérieures. On avait fait un peu exprès, je vais vous le dire, d'étudier dans nos essais des modalités qui étaient archi connues. Parce qu'on ne révolutionne pas l'agronomie en disant que l'enfouissement d'un lisier limite les émissions. Mais on a volontairement fait le pari, dans une étude qui était à la fois méthodologique et pratique, d'étudier des modalités connues pour avoir le recul bibliographique derrière pour savoir si nos résultats sont cohérents ou pas. Donc, on confirme que les cinétiques d'émission des lisiers sont très rapides, qu'il y a une forte efficacité de l'enfouissement, qu'il y a des différences de sensibilité entre l'ammonitrate d'un côté et l'urée solution de l'autre sans savoir les distinguer pour l'instant. Et que, bien entendu, l'étude de tout ça va se poursuivre parce qu'en dehors des flux d'ammoniac, on a mesuré un paquet d'autres paramètres agronomiques et météorologiques sur les essais pour aller plus loin. Et ben pour finir, ben on va continuer. À savoir que bah, maintenant, un délivrable du projet, c'est la méthode. Donc la méthode, on corrige les dernières virgules, on va dire, mais elle va être mise à disposition. Donc on va pouvoir faire de nouvelles expérimentations, bien entendu. Et là, on va aller explorer des trucs moins connus, où on a vraiment besoin de référencement, c'est-à-dire d'autres techniques d'application des pros, notamment les lisiers sur blé, aller voir d'autres produits organiques, des fientes de volaille, ce genre de choses. On va faire, bien entendu, une comparaison tri-produits en grès minéral, ammonitrate, urée, solution azotée. Et bien entendu, on va aller tester probablement, dans la mesure de nos moyens, des nouvelles formes d'engrais azotés qui arrivent sur le marché sur le marché français depuis 2 ou 3 ans. Et voilà.
Merci, on a le temps pour quelques questions. Moi, j'en ai une, j'en ai toujours, moi. Je connais pas grand-chose, mais est-ce qu'on a une idée de pourquoi l'ammonitrate émet plus que les autres? C'est quoi le mécanisme?
Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit plutôt que l'ammonitrate émettait moins que les autres.
Voilà. Ah oui.
Ensuite, pourquoi il y a certains
Oui,
cas où
émettez-moi,
l'ammonitrate peut
excusez-moi.
émettre? Pourquoi dans certains cas l'ammonitrate peut émettre? Bah déjà, l'ammonitrate a une phase ammoniacale, 50% quand même. L'ensemble des études bibliographiques qu'on en a pu regarder, il y en a plusieurs quand même qui mettent en évidence que dans certaines situations, l'ammonitrate peut émettre, mais il faut cumuler un certain nombre de facteurs de risque, bon, que j'ai énoncés d'expérience, parce qu'on les a constatés dans nos essais. L'essai où l'ammonitrate émet autant, voire plus que la solution azotée, c'est un sol basique. Au printemps 2011, dans des conditions d'absorption de l'azote par les cultures, qui est quand même en concurrence avec les pertes par l'utilisation d'acal, très mauvaise. Donc on cumule les facteurs de risque, on va dire.
Ok, merci. Des questions? Des commentaires? Il y en a là.
Donc Christian Walter d'AgroCampus Ouest, j'aurais voulu savoir un peu comment ce type de travaux expérimentaux très intéressants allait déboucher sur des nouveaux modèles de prédiction, quand même des modèles qui existent déjà, qui intègrent un certain nombre d'effets, d'humidité, d'enfouissement, etc. Comment vous voyez un peu l'utilisation dans une approche de prédiction de vos résultats?
Alors, je vais vous répondre à deux échelles. Déjà, à l'échelle globale, ce type d'étude va fournir ce qui manque un petit peu au niveau européen, des facteurs d'émission, des produits venant d'acquisitions de référence en France. Il y a énormément de données de nos collègues nordiques ou de nos collègues anglo-saxons, mais la présence de références françaises, donc c'est pas le côté français, hein, même si on est qualifié pour la Coupe du Monde, mais pour les contextes pédoclimatiques français, on manque un petit peu de poids dans la balance. Donc déjà, d'un point de vue global, pour les bilans au niveau je veux dire, nationaux et continentaux. Je pense au CITEPA, par exemple, dans ses inventaires. Ce type de travaux fournit une méthodologie pour produire en masse des facteurs d'émission français. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur les modèles, on va dire, de prévision des émissions au champ, bah, c'est à peu près la même conclusion. À savoir qu'actuellement, les modèles, soit sont issus de travaux à l'étranger avec un certain nombre d'options dans des modèles généralement statistiques qui prennent en compte des paramètres, etc., mais qui n'ont pas été validés dans des conditions françaises. Ensuite, en France, on a un très bon modèle mécaniste qui s'appelle Voltaire, et qui va bénéficier grandement d'un certain nombre de références expérimentales qu'on peut voir produire avec ce type d'approche. Troisième type de réponse, c'est que quel que soit le modèle, on s'aperçoit quand même que sorti de deux ou trois grands types de produits et deux ou trois grands types de techniques d'application, les références disponibles sont assez maigres. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à maintenant, ça coûtait très cher en temps et en argent d'acquérir des références. Le but aussi, d'un point de vue méthodologique, c'est de pouvoir aller explorer des techniques qui sont assez rarement explorées. Donc, comme je vous citais, les lisiers sur blé, d'autres types de produits organiques pour sortir un petit peu du triptyque solution azotée, urée, lisier, on va dire.
Ok. Alors, une question courte avec une réponse courte, s'il vous plaît.
Thierry Loyer, UNIFA. On voit que la méthode est bien adaptée pour comparer l'enfouissement avec l'épandage des lisiers. Est-ce que la méthode est bien adaptée pour comparer différents types d'épandage de lisiers ? Je m'explique un petit peu. On perd beaucoup au départ de l'épandage. Est-ce que les différents types d'épandage sont capables d'être distingués par cette méthode qui va être en fait éloignée de l'endroit de l'épandage ?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, mais à partir du moment où les techniques que l'on utilise différencient des flux, à savoir des quantités d'ammoniac émises par les sols ou par les cultures qui reçoivent les produits, on est assez confiant sur la sensibilité de la méthode pour les différencier. Ensuite, on n'est pas loin de l'endroit d'épandage, si vous voulez. Dans nos expérimentations, nos pièges ammoniac sont disposés à 30 cm et à 1 mètre de la surface d'épandage. Donc on est très proche, en fait. Donc si vous testez des techniques, je ne sais pas moi, buspalette versus pandillard versus enfouisseur versus pandillard plus cover crop, etc., moi je suis assez confiant pour qu'on puisse discriminer ces techniques-là à partir du moment, bien entendu, où elles ont une influence sur les flux. À partir du moment où on arrive à différencier deux formes d'engrais minéral qui jouent sur 20-30 microgrammes d'ammoniac émis, j'ai pas trop d'inquiétude si on teste des techniques d'enfouissement de lisier qui jouent sur des différences de quantité d'ammoniac plus importantes.
Bien, on va devoir s'arrêter là et passer à l'exposé suivant. Merci. Je vais appeler maintenant Marc Lambert de Yara France et Marc Hervé de Roquem Agro France SAS qui vont nous